Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Mickaël Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Qu'y a-t-il de plus mystérieux qu'une voix, surtout quand on ne la voit pas ? Je ne sais pas vous, mais moi, c'est quand il fait nuit que j'aime encore plus écouter une belle voix, car dans le noir silence, elle résonne avec une profondeur et un relief particulier et nous ouvre les portes de l'imaginaire, du fantasme et du rêve. Eh bien, c'est une grande voix que nous écouterons dans un instant, celle de la chanteuse lyrique Véronique Gens, une voix de soprano, qui partage avec nous toute la diversité des émotions nocturnes, telles que nous le racontent les mélodies françaises de la fin du 19e siècle. Mais pour commencer, direction le Sénégal avec une autre grande voix, dans un répertoire rap cette fois, qui lui a d'ailleurs valu le prix RFI Musique du Monde en 2003. Didier Awadi est avec nous, il vient nous présenter un projet collectif. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes avec nous aujourd'hui car vous venez de produire ça.
Awadi, Soupenda, Nana International. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution, c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer.
Bissim la nuit de Tidor, de Loussa Kouyam. Dignan yalla fu nangulu mu lepp lu ko ñaan seitané de yak kel di soppi xalaat di fiwule andundul dal bu mu laal yaay.
Ça s'appelle Dan Corona et c'est un vrai projet collectif. Dan, ça veut dire vaincre en Wolof, Didier Awadi, ça veut dire faire tomber. On pourrait donc appeler ça unis pour vaincre la maladie.
Exactement, unis pour vaincre la maladie, unis toutes les générations de la musique sénégalaise, de Youssou Ndour aux plus jeunes, voilà, rap et Mbalax qui se mettent ensemble et toutes les voix par rapport à ce combat pour être présents par rapport à l'appel de l'histoire.
Parce qu'il y a 20 artistes hein, qui ont répondu présents, comment les avez-vous réunis ?
Tellement naturellement, il faut savoir que le mouvement hip-hop au Sénégal est très très engagé par rapport aux questions sociales, politiques et au sortir de là, les cultures urbaines se sont mises ensemble et on a décidé de faire un morceau. Je suis tombé sur ce morceau de Youssou Ndour qui convenait parfaitement et j'ai appelé quelques artistes qui ont appelé d'autres artistes. Au début, on voulait 19 artistes pour coller au C19.
Oui.
À la fin, on s'est rendu compte qu'on était 20 et Youssou Ndour a joué le jeu, mais on savait qu'avec le grand frère, le message aurait beaucoup plus de portée. Tous les Sénégalais et les Sénégalaises pourraient se sentir concernés par rapport à l'urgence de respecter les gestes barrières.
Alors, comment est-ce que vous avez réalisé le clip ? Parce que vous avez aussi tourné un film. Comment ça s'est passé avec le couvre-feu, avec l'interdiction des rassemblements ? Ça n'a pas dû être facile.
C'était vraiment pas facile, parce qu'il fallait convoquer chaque personne à une heure fixe, et chaque fois que quelqu'un posait au studio, on désinfectait. Et donc, pendant 3 jours, les 20 artistes se sont succédés au studio, sans vraiment se rencontrer. Et après, tout le monde a écouté le mix final et... Apparemment, tout le monde a été super satisfait.
Alors, il y a des passages en Wolof aussi dans la chanson. Pour ceux qui, comme moi, ne parlent pas le Wolof, qu'est-ce que vous nous dites ?
Globalement, c'est rappeler les gestes barrières, c'est rappeler l'urgence de solidarité.
Alors, cette chanson, elle va aussi générer des recettes. Qu'est-ce que vous en ferez des recettes ?
On demande aux gens de télécharger le morceau en envoyant C19 à un numéro court, le 22025. Au Sénégal, et ils peuvent télécharger le morceau et l'avoir sur leur portable. Ça génère 100 francs CFA. Et toutes les sommes qui vont être collectées vont aller au ministère de la Santé pour l'aider dans la lutte par rapport au Covid-19.
Alors bravo pour cette initiative, Didier Awadi, mais j'imagine que si elle était nécessaire, c'est parce que précisément aujourd'hui au Sénégal, les gens ne font pas assez attention ?
Je ne peux pas dire que les gens ne font pas attention, parce qu'il y a de nouveaux réflexes qui sont là, dans les rues de Dakar, partout. Il y a des vendeurs de masques. Tous les masques ne vont pas être homologués par l'OMS, mais c'est déjà un bon début que tout le monde sache qu'on doit avoir son masque. Mais il faut toujours rappeler aux gens que le truc, il est là et que ça va continuer à grossir encore. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir.
Oui, vous le montrez d'ailleurs au détour de quelques images dans le clip que porter un masque, ça peut être stylé, ça peut être un peu swag aussi.
Pour nous, c'était important de mettre justement ces jolis mannequins dans le clip pour montrer que bon, ok, le Covid, le masque, c'est pas un truc voilà qui peut, ça peut être swag, ça peut être sexy, et tout le monde y va de sa créativité. On va peut-être vivre avec ça quelque temps encore, même peut-être beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Il y aura un avant et un après.
Dernière question, Didier Awadi. Alors évidemment, pendant cette période un peu particulière, on peut écouter en boucle Dan Corona. Est-ce qu'il y a une autre chanson ? Est-ce qu'il y a un livre ? Est-ce qu'il y a un film que vous pourriez aussi nous conseiller pour redécouvrir tout cela dans cette période ?
Il y a un livre que j'aime bien, c'est Aminata, The Book of Negroes. Ça, c'est un super beau livre qui te fait voyager jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Lawrence, oh, j'ai oublié.
Oui, vous voulez sans doute parler de The Book of Negroes de Lawrence Hill.
Et sinon, pour un film, j'ai La Cité des Dieux, c'est un classique brésilien et ça, je vous le conseille vivement.
Merci, merci beaucoup Didier Awadi.
Merci, Jean-François.
Et d'une star à l'autre, nous accueillons notre Amélie Beaucourt internationale. Bonjour Amélie.
Bonjour Jean-François.
Alors depuis le début de la crise sanitaire, les musées du monde entier sont fermés, mais rivalisent de créativité pour faire entrer leurs œuvres chez les visiteurs confinés. L'occasion pour vous Amélie de voir des expositions qui se tiennent à plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de chez vous, tout en restant confortablement assise, en tout cas j'espère, dans votre canapé. Une alternative sans kérosène qui était à la fois un moyen de faire plaisir à la planète et à votre portefeuille.
Si certains musées se sont donné rendez-vous sur le portail numérique de Google Arts pour me laisser déambuler virtuellement dans leurs couloirs, d'autres ont fait le pari de me faire découvrir leur collection de façon plus inventive sur leur propre réseau. Et ça tombe bien puisqu'après plusieurs semaines de confinement, je ne demande qu'à partir en voyage. J'embarque donc à bord d'un avion imaginaire, direction le Canada, où le Musée national des beaux-arts du Québec consacre une exposition à Frida Kahlo et à son mari, Diego Rivera. Plutôt que de défiler devant les tableaux, je me laisse guider par la voix de deux comédiens qui me racontent la vie et l'œuvre de ces grandes figures du modernisme mexicain.
Dans cette lithographie, Frida Kahlo illustre l'un des drames de sa vie. Elle s'est dessinée nue au centre d'une composition surréaliste.
Je remonte dans mon avion imaginaire, direction l'Amérique du Sud. Et alors que je survole les États-Unis, je reçois un tweet de Tim, un gardien de musée pas comme les autres. Il travaille au National Cowboy Museum, à Oklahoma City, un musée dédié à l'histoire de l'Ouest américain et des Premières Nations. Depuis qu'il a fermé ses portes au public, Tim est le seul à pouvoir déambuler dans ses allées. Alors il s'est emparé du compte Twitter du musée, et chaque jour, il partage une œuvre qu'il a croisée pendant sa ronde de surveillance, accompagnée de quelques explications et ponctuée de blagues un peu embarrassantes comme celles que font tous les pères du monde. Papa, si tu m'écoutes, ne te vexe pas, s'il te plaît. Mais la recette a tout de même un certain succès puisque le compte a gagné plus de 300 000 abonnés depuis le mois de mars. J'atterris quelques kilomètres plus bas à Buenos Aires, en Argentine, où le Malba, le musée des beaux-arts, m'invite à l'exposition Constellation, qui me propulse dans l'univers surréaliste et poétique de la peintre espagnole Remedios Varo. À travers son compte Instagram, je peux suivre des visites guidées en espagnol, une langue magnifique dont vous avez sûrement quelques notions si, comme moi, vous avez passé vos premières semaines de confinement à regarder La Casa de Papel sur Netflix. Ma prochaine destination, c'est l'Australie, Melbourne plus précisément, où une galerie d'art du centre culturel Bunjil Place propose une visite virtuelle à l'occasion du Festival international de la photographie 2020. L'exposition s'appelle Le Nouvel Avant-Garde Noir. On y retrouve le travail d'artistes comme Tyler Mitchell, premier afro-américain à photographier la couverture du Vogue américain, c'était en 2018, et d'autres artistes prometteurs comme Diana Scruggs ou Ariel Bob Willis, qui libère le corps noir des dictats imposés dans l'industrie de l'art et de la mode. De retour en Europe, je m'arrête aux Pays-Bas où le musée Van Gogh me propose de découvrir la vie du peintre à travers un jeu de loi à télécharger. Et un peu plus au sud à Bruxelles, le musée Beaux-Arts où se tient une exposition sur l'américain Keith Haring me plonge dans l'univers coloré et dynamique de l'artiste en m'enseignant quelques mouvements de breakdance dont il se serait inspiré dans son travail. Je finis mon petit tour du monde à Londres, où je visite deux expositions différentes. La première est consacrée à Andy Warhol, figure emblématique du pop art, dont le travail est exposé jusque septembre au Tate Modern. Pour patienter, le musée a mis en ligne plusieurs vidéos, articles et quiz qui permettent de découvrir l'homme qu'il était, au-delà des visages colorés de Marilyn et des boîtes de soupe en conserve. Ma dernière exposition se trouve à quelques mètres de là, dans les jardins de Hyde Park. Les galeries Serpentine accueillent une installation audiovisuelle du Danois Jacob Kutsk-Stinson. L'artiste a recréé de façon digitale une forêt primaire, c'est-à-dire vierge de toute exploitation humaine, et nous invite à nous y promener. Grâce à un son en trois dimensions, chaque détail, du chant des oiseaux au clapotis de l'eau qui ruisselle, est fidèlement reconstitué. Et pas besoin de matériel sophistiqué pour les discerner, il suffit de brancher son casque et de laisser son esprit confiné vagabonder entre art et nature.
Des expositions partout dans le monde à retrouver évidemment sur le site internet de RFI et ses réseaux sociaux. Merci Amélie et on salue au passage votre papa. Et c'est une fille de médecin que nous accueillons aujourd'hui dans VMDN, une des plus grandes voix françaises de ce début du 21e siècle, une soprano à la voix de miel qui a voulu être interprète anglophone avant de donner libre cours à sa vocation artistique qui la consacrera artiste lyrique de l'année aux victoires de la musique classique en 1999. Remarquée par William Christie en 1987, elle intégrera les arts florissants et restera longtemps fidèle au répertoire baroque, en particulier avec le contre-ténor Gérard Laine. Elle rencontrera ensuite le chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire, avec lequel elle interprétera Mozart, triomphera dans Don Giovanni au Festival d'Aix-en-Provence sous la direction de Claudio Abbado et en viendra ainsi à aborder l'ère classique et moderne. Son dernier album nous emmène dans la musique de la fin du 19e siècle, Nuit. Le nouvel album de Véronique Jeans avec Kid Giardini, produit par le Palazzetto Bruzzan, est disponible chez Alpha Classics et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Véronique Jeans.
Bonjour.
C'est par le nocturne de Guillaume Lequeux que nous entrons avec vous dans la nuit, ou plus exactement dans les nuits, hein, le pluriel est important, on va y revenir. C'est au moins la troisième fois, hein, je crois qu'un de vos albums s'articule autour de la nuit. C'est avec les Nuits d'été que vous avez abordé Berlioz en 2001 avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Louis Langrée. Vous avez aussi sorti Nuit d'étoiles avec des mélodies de Forêt, Debussy, Poulenc autour du piano de Roger Vignol. Pour vous Véronique Jeans, que représente la nuit ?
La nuit, c'est le moment où tout est permis, c'est le moment où tous les sentiments peuvent se mélanger, se croiser, s'installer. Ça peut être l'angoisse, ça peut être la peur, ça peut être au contraire un grand plaisir, ça peut être la folie. Enfin voilà, la nuit, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Bon, s'il y a ce côté sombre où on peut être caché, ça ouvre des perspectives incroyables.
La nuit, on peut aussi écouter de la musique, écouter dans le noir. Ça change tout, Véronique Jeans.
Écoutez, dans le noir, oui, je pense qu'on est encore plus concentré sur ce qu'on entend et on entend des choses qu'on n'entend pas quand la lumière est là et quand on a les yeux ouverts et qu'on voit beaucoup de choses autour de soi. Ça permet d'être vraiment dans la musique et il y a une espèce d'introspection qui est sans doute qui vous remplit, qui tout d'un coup on n'est que la musique et on vit dans la musique. C'est très différent, oui, je pense.
Et écouter une voix dans le noir aussi.
Absolument, c'est une voix parlée, vous voulez dire, ou une voix chantée ?
Ah, les deux.
Les deux, oui, je pense, les deux, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que là, on parle de la musique, on parle de commencer avec ce Europarc-là, c'est vrai que ça met une ambiance, ça installe une atmosphère qui est très propice à cette nuit, et qui est quelque chose de sombre, des images qui passent, et cette musique qui rentre tout doucement. Oui, je crois que c'est très inspirant, très très inspirant.
Alors, fermons les yeux et écoutons Gabriel Fauré.
D'accord.
Après un rêve de Gabriel Fauré, une des mélodies qui figure sur cet album Nuit que vous venez nous présenter aujourd'hui dans VMDN, Véronique Jans, sans doute l'une des plus connues hein, parmi les 14 qui ont été retenues. Il y a aussi du Fauré sur ce disque, hein, La Nuit Blanche dans les Bois. Comment est-ce que ces morceaux ont été choisis? Comment le choix a-t-il été fait?
En fait, ça s'est venu très très lentement et ça a mûri pendant très longtemps. J'avais très envie d'enregistrer la chanson perpétuelle de Chausson depuis très longtemps. Je l'ai beaucoup chantée en concert, mais c'est une formation très spéciale puisque c'est quatuor à cordes et piano. Et c'est rare de faire un concert entier avec quatuor à cordes et piano puisqu'il y a très peu de répertoire pour ça en fait. Donc j'en ai parlé avec Alexandre Dradvicki, qui est le directeur scientifique du Palazzetto Bruzane, comme vous savez, qui m'a dit oui, c'est une très bonne idée, surtout que c'est une formation avec laquelle j'ai pas l'habitude de chanter, donc pourquoi pas faire ça, mais il faut trouver d'autres choses pour le même type de formation. Alors on a trouvé ce Roparts, qui est juste une merveille. En fait, c'est un cycle, mais on a décidé d'en choisir une seule de ces mélodies. Aidez-moi.
L'un des quatre poèmes de Guy Roparts,
voilà,
oui.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, il a dit, mais c'est pas un problème, tu choisis les mélodies que tu aimes, et des choses connues et des choses moins connues, puisqu'il faut toujours un peu mélanger les deux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça, proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre.
Ce qui est aussi la marque de fabrique, si j'ose dire, du Palazzetto Bruzane. Hein. C'est toujours ce souci de mélanger ce qui est très très populaire et ce qui est peut-être un petit peu moins connu.
Voilà, absolument. Et c'est juste une manière de faire connaître des choses, justement, tout doucement et sans que les gens s'en rendent compte. Et donc voilà, il a dit, mais c'est pas du tout un problème, moi je peux orchestrer, arranger tout ça. Donc nous voilà partis, on a fait un choix de choses qui étaient facilement ou plus ou moins facilement arrangeables, si je puis dire. Et on s'est retrouvés, voilà, avec plein de choses différentes. Et il a fallu trouver un thème commun à des choses, à toutes ces mélodies, puisque encore une fois, dans toutes ces mélodies, le texte est tellement important. On ne fait pas juste de la musique avec des beaux sons et des belles notes. Il fallait vraiment raconter une histoire. Donc, tout s'est fait autour du thème de la nuit. Et c'est vrai qu'Alexandre Dradvicki a été très présent dans le choix de ce programme et aussi dans... C'était vraiment du sur-mesure. Je choisissais les mélodies. Il disait, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que ça te va? Si on met un peu plus de piano, un peu plus de violon, un peu plus d'alto. Donc, c'était vraiment un grand, grand plaisir, une grande liberté et vraiment une confiance mutuelle tellement importante qui est toujours d'actualité avec le Palazzetto Bruzane qui est vraiment un partenaire formidable et une nouvelle famille pour moi depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant.
Voilà, et comment avez-vous ensuite travaillé avec l'ensemble I Giardini?
Alors I Giardini, c'est un quatuor à cordes, un jeune quatuor à cordes à géométrie variable puisque le piano est là ou pas, mais en général il est là. Et c'était vraiment, il nous fallait un quatuor qui avait envie tout simplement d'accompagner une chanteuse. Et c'est vrai que les quatuors à cordes avec piano font souvent, il y a tellement de répertoire juste. En fait, ils n'ont pas besoin de s'embêter avec une chanteuse, si je puis dire. Donc, on a rencontré ces gens qui étaient très partants, très enthousiastes, par l'intermédiaire d'Alexandre Dradvicki, bien sûr. Et ça a été vraiment pour moi un grand, grand plaisir de me fondre dans cette connivence et dans cette complicité qu'ils ont déjà entre eux, puisqu'ils vont tourner dans le monde entier déjà, même s'ils sont tous très jeunes, ils ont fait déjà beaucoup, beaucoup de concerts, ils sont très, très, très musiciens et ils ont l'habitude de jouer aussi. Ça montre, je trouve, une grande ouverture d'esprit sur des instruments anciens, classiques, si je puis dire, ou des instruments modernes. Donc ça montre vraiment une façon de travailler qui me plaît beaucoup, puisque, comme vous savez, je viens de la musique baroque et j'ai travaillé beaucoup avec des ensembles en petite formation comme ça, et j'ai tourné beaucoup dans le monde entier avec des petites formations comme ça. Donc c'était vraiment une sorte de retour en arrière avec un répertoire plus tardif, et ça a été vraiment tout de suite, ça a très bien marché, cette façon qu'ils ont de s'écouter entre eux, de m'écouter et moi, de me glisser dans son qui est déjà rond, plein et magnifique. C'était vraiment beaucoup de plaisir et cet enregistrement a été vraiment que du bonheur. Je dis pas ça pour tous mes enregistrements, honnêtement, il y a quelques fois c'est vraiment difficile, mais là non, que du plaisir, vraiment.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
VMDN avec la soprano française Véronique Jans pour son album Nuit chez Alpha Classics. Alors vous le disiez il y a un instant, Véronique Jans, vous avez commencé par le baroque, vous avez entre autres été repérée par William Christie et les Arts Florissants. Il y a eu ensuite Jean-Claude Malgoire, hein, autre rencontre importante dans votre carrière qui vous a donné vos premiers rôles mozartiens. Et puis vous en êtes venu à la mélodie française. Votre répertoire, est-ce qu'il a changé avec votre voix ou c'est surtout une histoire de rencontre?
C'est un peu des deux, si je puis dire. La musique baroque française demande une rigueur vocale et une grammaire vocale qui est très exigeante pour la voix et qui, à mon avis, empêche la voix de se développer naturellement. Et après toutes ces années avec les Affleurissants, années que qui étaient vraiment les plus belles de ma vie, je crois, on peut le dire tout simplement, j'avais besoin et je sentais que ma voix avait besoin de plus d'espace vocal, de plus d'espace dans ma gorge et dans mon corps. Donc voilà, j'ai rencontré un peu par hasard, honnêtement, Jean-Claude Malgoire qui m'a dit « Mais ta voix est faite pour chanter Mozart, il faut que tu essayes ». Je lui ai dit « Non, je suis incapable de chanter Mozart, je me sentais vraiment… » Oui, vraiment pas du tout les épaules pour ça. Et il a insisté beaucoup. Et voilà, il m'a proposé mon premier chérubin à Tourcoing avec son atelier lyrique. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Tout d'un coup, une liberté. Alors tout ça est relatif, évidemment. Quand on compare la musique baroque à Mozart, on ressent une liberté. Mais si vous parlez de Mozart à des gens qui ont l'habitude de chanter Verdi ou Puccini, tout d'un coup, ils vont dire « Oh là là, on est très étroit dans Mozart ». Donc voilà, c'est une sorte d'évolution naturelle, je crois, de la voix. Et maintenant, si je chante des choses encore plus tardives, je sens effectivement que Mozart demande en fait cette exigence baroque, pratiquement, quoi. Cette justesse et cette attaque des sons propres. Enfin, on n'a aucun moment, on peut se laisser aller dans Mozart. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens, et à aucun moment on peut vraiment voir ou lâcher complètement la voix, mais c'est en même temps un bon curseur, je trouve, pour savoir dans quel état vocal on est, et c'est un bon pour la santé vocale.
Et le corollaire de cette exigence, Véronique Jans, c'est aussi une forme de plaisir ?
Absolument, absolument. De sentir que, vous savez, dans Mozart, c'est comme dans la musique baroque, ou c'est comme dans ce genre de formation, un quatuor à cordes avec piano pour des mélodies françaises, on entend tout. On entend tout, tout est très clair, tout est très léger, c'est de la dentelle, c'est lumineux, donc c'est un plaisir d'entendre chaque timbre, chaque entrée, chaque son tenu, c'est de la dentelle, voilà, je peux pas le dire autrement, et c'est transparent, donc si c'est propre et si c'est vraiment rigoureux, c'est magique, tout d'un coup ça prend et c'est juste sublime.
Désir de l'Orient sur RFI, la voix de notre invitée Véronique Jans, interprétant Camille Saint-Saëns. Les arrangements, on le disait tout à l'heure, ont été réalisés par le musicologue Alexandre Dradvicky à la manière du 19e siècle. C'est une forme d'hommage à l'art de la transcription, hein, cher à la belle époque, hein, cette idée d'adapter une composition écrite, souvent un poème, à un instrument, à une voix, à un ensemble musical. La mélodie française, justement, Véronique Jans, c'est un répertoire qui vous tient à cœur?
Oui, c'est la Mélodie française, c'était une musique qui me comble, tout simplement parce que le texte y est tellement important et nous avons la chance en France d'avoir des grands poètes et d'avoir des grands compositeurs qui se sont rencontrés et qui ont vécu à la même époque et qui se connaissaient. Et c'est une sorte de, comment dire, je me sens la responsabilité et le devoir, quelque part, de faire connaître toute cette musique sublime et d'en faire profiter tout le monde. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que j'ai envie que les gens comprennent ce que je raconte. Quand on a tous ces poèmes magnifiques, il faut juste pas passer à côté, sinon on a rien compris, je crois. La Mélodie française, c'est un choix. On décide de faire comprendre un texte, de donner des ambiances, de montrer des couleurs, mais on n'est pas là pour montrer « Waouh, regardez comme je peux faire du bruit, regardez comme ma voix est grande et regardez comme je peux en mettre, casser la baraque ». C'est pas du tout ça l'idée, c'est quelque chose de très intime, c'est une forme à la base très intime et très intimiste. On est d'habitude juste avec un piano et une chanteuse, donc vraiment une espèce de proximité et une connivence qui sont primordiales et qui n'existent pas. En tout cas, beaucoup plus difficilement avec un gros orchestre de 95 musiciens. Quand vous êtes devant, forcément, c'est très différent. Avec un chef d'orchestre, là, il n'y a pas de chef d'orchestre. Il y a vraiment cette intimité qui me plaît beaucoup. Et encore une fois, qui me rappelle beaucoup mes années baroques, où on était dans des toutes petites formations comme ça, où on déclamait des textes, des tragédies lyriques ou pas. Enfin, vraiment des ambiances très spéciales et très, très intimes et très... très personnel, tout simplement. C'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup et qui me comble, si je puis dire. J'ai besoin de ça. J'ai besoin aussi de chanter de l'opéra, évidemment, d'être sur une scène avec un costume, une perruque et me transformer en quelqu'un d'autre. Mais là, quand je chante cette musique, je suis moi-même et je sens que j'ai beaucoup de choses à... Très simplement, hein, je dis pas du tout ça, j'ai pas du tout la grossette, mais je sens que j'ai des choses à proposer et à raconter, et c'est ça qui me plaît beaucoup.
En proposant, toujours en restant dans quelque chose, on va dire, de plus pastel, hein. On n'est pas du tout dans le lead ou dans l'opéra italien, on n'est pas du tout dans la performance, pour reprendre un petit peu ce que
pas
vous disiez
tout,
à l'instant.
Pas du tout. On est là pour raconter une histoire. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, et c'est ça que j'essaye de transmettre à tous ces jeunes étudiants, là, qui s'intéressent maintenant de plus en plus à la musique française et aux mélodies françaises, puisque nous avons créé une académie à Royaumont, où on fait travailler juste des duos. Et l'importance aussi du duo, de la connivence qu'il y a entre le pianiste et la chanteuse, et de bien se connaître et de se faire confiance. Et il y a tout un tas de relations qui existent à force de chanter et de jouer ensemble. Et ça, c'est vraiment... on ne cherche pas du tout la performance, on ne cherche pas du tout le côté showing off, le côté regarder tout ce que je peux faire. Enfin, on est vraiment loin de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est une autre... façon de s'exprimer, sans doute, mais en tout cas, c'est pas du tout celle que moi je ressens, et c'est que j'ai envie de montrer. J'ai envie d'émouvoir les gens, j'ai envie de les toucher en racontant un texte, en racontant une histoire, en l'occurrence toutes ces petites mélodies qui sont toujours très courtes, qui dépassent rarement 5 minutes, mais qui sont pour moi une façon de m'exprimer, en fait, très direct et très simple. Voilà, je cherche la simplicité et juste raconter une histoire.
Est-ce à dire que chanter en français, c'est différent de chanter en italien, en allemand ou en anglais?
Absolument. Chanter en français, surtout quand on est français, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le français, d'ailleurs tous les étrangers vous le diront, est une langue très compliquée à chanter à cause de tous ces sons que nous avons dans le nez, les on, un, en, c'est tout ça vocal. Vous sentez bien quand vous faites on, tout, vous sentez bien que le son va dans votre nez, pardon. Mmh. Donc comment voulez-vous faire un son et rester dans une technique vocale où on essaie d'ouvrir la gorge et où tout doit être, enfin sans rentrer dans les détails, tout doit être libre et bien placé. Là, tout d'un coup, on a des sons qui vont dans le nez, dans la gorge, qui se baladent beaucoup. Et ça, c'est très difficile en tant que Français. Je pense que les étrangers, ils ont tous réussi à trouver des trucs, parce que souvent, ils ont du mal à faire ça. Ils trouvent des trucs qui font que ça devient moins difficile pour eux. Bon, je suis pas sûre qu'on comprenne tout ce qu'ils racontent, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tant que Française, je crois que c'est très difficile. Et chanter le français est vraiment... un endroit vocal dans la gorge, encore une fois sans rentrer dans les détails, qui est vraiment différent de l'italien où il n'y a que des syllabes ouvertes, des i, a, o, voilà, des choses qui sont très vocales et qui se mettent vous directement au bon endroit dans votre gorge, si je puis dire.
Le premier soir qu'il vint ici, mon âme fut à sa merci. De fierté, je n'eus plus souci. Les regards étaient pleins d'aveux. Il me prit dans ses bras nerveux.
Notre invité Véronique Jean, c'est la chanson perpétuelle d'Ernest Chausson sur RFI, extrait de son nouvel album intitulé Nuit. Et vous nous expliquez tout à l'heure, Véronique Jean, ce que c'était de ce titre-ci que l'idée de cet album était partie. Pourquoi teniez-vous tant à interpréter cette chanson perpétuelle ?
Parce que c'est un monument de la musique française et qui est tellement rarement donné, c'est très très dommage. Mais encore une fois, c'est parce que c'est compliqué. Le répertoire est très petit, pourquoi tu raccordes des pianos, voilà, et chanteuse bien sûr. Donc c'est difficile de programmer cette chanson perpétuelle au milieu d'un récital pour orchestre ou d'un récital pour piano. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de graver ça. J'aime beaucoup cette chanson perpétuelle, elle est tellement... c'est une mélodie qui est longue et qui raconte une histoire et un désespoir et un abandon terrible. Et on peut montrer tellement de choses et le fait que le quatuor à cordes soit là, en plus du piano, vous soutient tellement et vous aide tellement à montrer tous ces états d'âme et toute cette tristesse et ces angoisses et les souvenirs qui reviennent. C'est vraiment un mini-opéra, si je puis dire, et un grand, grand plaisir à chanter. Tout d'un coup, il y a tout ce côté presque parlé et de tout d'un coup des grandes envolées lyriques. C'est très complet, c'est une mélodie qui est très très complète et qui est vraiment très agréable à chanter.
Et c'est l'œuvre qui se trouve vraiment au centre de cet album qui s'intitule donc Nuit au pluriel. Et il est important le pluriel puisque à la nuit on peut effectivement accoler toute une série de qualificatifs, une nuit d'angoisse comme vous le disiez à l'instant, une nuit d'amour, de repos, de cauchemar, que sais-je encore. Chaque morceau est effectivement un petit récit, donc cet album c'est une forme de recueil de contes ou de recueil de nouvelles?
Oui, si vous voulez, on peut voir ça comme ça. Chaque mélodie, même si elle est très courte, raconte, c'est une mini-histoire. En fait, c'est un poème avec un début, une fin, et c'est vraiment tout un tas de couleurs différentes, d'ambiances différentes. Et comme vous parliez tout à l'heure de cette nuit qui peut être des nuits d'angoisse, de plaisir, ça peut être aussi une nuit de griserie, c'était aussi l'occasion pour moi de chanter des choses un peu plus gaies, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire et pourquoi pas de m'éloigner un peu de mon répertoire habituel pour chanter des choses plus où on m'attendrait pas, comme par exemple la vie en rose ou des choses qui lorgnent tout doucement du côté de la comédie musicale.
Alors justement, la vie en rose, on va l'écouter tout de suite, on en parle juste après.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
La vie en rose. Alors là, pour le coup, Véronique Jean, c'est un sacré tube de la chanson française. Tout le monde connaît évidemment la version Édith Piaf. Elle a été reprise par des centaines d'artistes, et pas seulement en France d'ailleurs. On a tendance d'ailleurs à oublier le nom du compositeur, en l'occurrence Marcel Louis Guy. Et ce disque permet de nous le rappeler ou peut-être de nous l'apprendre. Alors comment on fait, Véronique Jean, pour renouveler l'interprétation d'un air aussi culte?
Ben déjà, il faut savoir si on a envie de chanter ce genre de choses ou pas. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire des choses un peu comme ça. C'est loin de ce que j'ai l'habitude de faire et c'était vraiment un challenge. Comme vous disiez, tout le monde a évidemment Édith Piaf dans l'oreille, mais j'ai juste pas écouté Édith Piaf du tout. J'ai écouté personne, j'ai juste fait comme avec ma personnalité, avec ma voix, avec ce que j'avais envie de faire passer dans cette mélodie. C'est de juste se laisser aller par ce... Ces grandes phrases qui sont si jolies, si simples, qui roulent, qui avancent et qui sont si mélancoliques, quoi. C'est vraiment tellement romantique et tellement mélancolique. Là, c'est vraiment la musique française romantique par excellence, quoi. Il y a cette espèce de flow qui vous berce, qui vous emmène. Juste pensez les mots que vous dites et vous laissez bercer. J'ai jamais voulu essayer de copier qui que ce soit. Je l'ai fait encore une fois le plus simplement possible, et comme en général j'aborde toujours toute la musique que je connais pas et que j'ai jamais chantée de manière très humble, en fait, très très simple et très humble, je chante ce qui est écrit sur la partition et j'y mets mon cœur, mes tripes, mon ventre et oui, toute ma personnalité, en fait, voilà, tout simplement, et sans essayer de rajouter des trucs ou des choses dans la tradition, exactement comme dans l'opéra, où il y a beaucoup de chanteuses avec la tradition qui ont rajouté des points d'orgue par-ci, par-là, pour faire des aigus, pour montrer ci, pour montrer ça. Non, non, moi, j'essaye de vraiment d'être très humble, vraiment très, très simple. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire dans cette vie en rose.
Mais pour toutes les mélodies qui figurent sur cet album, c'est d'abord par les notes ou c'est d'abord par les mots que vous êtes entrée dans chacune d'elles?
D'abord par les mots, je crois. Je suis chanteuse, j'ai la chance d'avoir ce moyen d'expression en plus d'un musicien qui a son violon, ses cordes, et qui peut faire des sons sublimes et qui peut faire plein de choses que je suis incapable de faire, évidemment. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des mots, en plus de la musique, en plus de ma voix, j'ai la chance d'avoir des mots et d'exprimer encore plus de choses et d'avoir un art encore plus complet, à mon avis, alors qu'en plus, je suis accompagnée par des cordes qui vibrent de manière si sublime et si simple et si entraînante, avec un piano en plus. Tout est là pour exprimer vraiment un maximum de choses et d'être à fond et complètement dans ce qu'on fait et de vivre toute cette musique et de la sentir, de sentir la pulsation, de se laisser emporter par ce flot de la musique, tout simplement.
Donc combiner la poésie du sens, des sens et la musicalité des sons.
Voilà, comme c'est bien dit, bien mieux que ce que je viens de vous expliquer.
Vous êtes gentil. Mais c'est vrai que pour entrer dans un texte et pour l'interpréter, est-ce que les gestes, est-ce que les regards sont très importants, Véronique Jean? On peut dire qu'on est dans un jeu quand on interprète une mélodie française comme celle-ci?
Absolument, et c'est pour ça que le fait en ce moment de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir exprimer quoi que ce soit, c'est tellement frustrant pour nous tous, les artistes, de ne plus pouvoir jouer en public. Parce qu'on a besoin de cette communication avec le public et de les regarder quand on raconte ça et de sentir ce qu'ils ressentent. Enfin, c'est une communication et une des choses qui vont dans un sens et dans l'autre. Si on n'a pas ça, alors je vois tous ces jeunes artistes qui postent sur tous les réseaux. Tout le monde est tellement frustré, en fait, c'est juste atroce, quoi. Qui postent sur tous les réseaux des concerts et qui font des concerts chacun de leur côté et qui postent. Moi, je trouve ça vraiment tellement atroce et tellement dur. Moi, je suis incapable de faire ça. Ils sont très courageux. Mais en même temps, c'est tellement triste et tellement glauque de faire ça. On voit personne quand on regarde son écran. On voit pas toute cette salle, tous les gens qui respirent avec vous, qui sourient ou qui ont les yeux fermés ou qui vous soutiennent ou qui s'ennuient ou pas. Enfin bon, il y a tellement de choses qu'on voit quand on chante et qu'on regarde les gens dans la salle. C'est cette communication non-stop et permanente qui nous enrichit et qui fait qu'on a envie de faire ce métier. Je crois, voilà, tout ça pour dire pour répondre à votre question, quand on chante tout ça, on a besoin de voir comment les gens le sentent, réagissent à ce que vous racontez. Et c'est ça qui fait que notre art est tellement complet et tellement, est tellement malheureux en ce moment et tellement frustré d'être enfermé comme ça.
Voilà. Alors justement, dans la foulée de la sortie de l'album, était prévue une série de concerts à l'Auditorium du Louvre le 15 juin,
oui.
En août,
oui, oui.
Aux Promenades Musicales du Pays d'Auge en Normandie, le 5, et oui. Puis le 8 août au Festival Nature et Musique en Bauge. C'est toujours d'actualité? Ça va être repoussé? Qu'est-ce qui va se passer?
Non, tout ça c'est annulé, bien sûr. Alors on espère évidemment que ça sera repoussé, mais c'est difficile pour tout le monde, on ne sait pas quand on pourra revenir. Enfin voilà, vous connaissez bien le contexte actuel et j'avoue que c'est très très compliqué, très frustrant, très triste et très difficile. Et c'est pour ça que je me permets d'ajouter à votre antenne que nous avons créé une association pour les artistes lyriques français qui s'appelle Unisson, une association qui nous aide à nous soutenir les uns les autres et à être au courant de tout ce qui se passe. Parce que comme vous savez, nous sommes tous artistes lyriques, mais nous avons tous des régimes différents, nous sommes tous intermittents du spectacle, bien sûr. Mais si on chante pas, on n'a pas de revenus, c'est aussi simple que ça. Donc on essaye de se soutenir les uns les autres et de savoir, on attend avec impatience que va annoncer le président Macron dans quelques jours.
Voilà,
mais je voulais en profiter pour... Voilà, c'est ça, je voulais juste profiter de votre antenne pour dire que cette association est nouvelle et qu'il faut en passer par là, c'est-à-dire cette situation extrême est tellement difficile pour tout le monde pour qu'on s'unisse enfin et qu'on se serre les coudes. On est tellement individualiste dans notre métier, dans notre travail que ça n'avait jamais existé jusqu'à maintenant. Donc, on est tous très malheureux, on est tous très tristes et on est tous très inquiets pour notre avenir. Voilà.
Allez, le message est bien passé, croyez-le bien, Véronique Jans. On va terminer quand même par une note un tout petit peu plus optimiste, peut-être même malicieuse et espiègle. On va écouter « J'ai deux amants » d'André Messager. Vous pouvez nous en dire un petit mot?
Oui, ça faisait partie des choses un peu rigolotes que j'avais envie d'essayer. Encore une fois, j'ai une image de la tragédienne, la fille pas très marrante, un peu coincée, voilà. Donc, je suis aussi capable de faire des choses plus gaies. Il se trouve qu'on m'en propose rarement. Et c'était très amusant de chanter ça. Le texte est tellement rigolo et le texte est... Il y a de quoi s'amuser beaucoup. Et avec les musiciens, on s'est beaucoup, beaucoup amusé à enregistrer ça. Et c'était vraiment... j'ai envie de faire de plus en plus de choses comme ça, mais à petite dose comme ça. Je trouve que c'est... On en a besoin dans notre métier, surtout en ce moment, donc merci de les passer maintenant.
J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes. Il me donne la même somme exactement par mois et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double à chaque fois et ma foi, il me croit.
Merci beaucoup Véronique Jans de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous, merci beaucoup.
L'album Nuit avec Il Giardini produit par le Palazzetto Bruzzan, disponible je le rappelle chez Alpha Classics. Merci beaucoup.
Que c'est bête, un homme.
Avant de se quitter, un coup d'œil dans le rétroviseur avec Marjorie Bertin. Alors, juste avant le confinement, elle est allée tendre son micro et ses oreilles dans le 9e arrondissement de Paris, à Pigalle, dans un musée insolite, le Phonomuséum, qui propose de raconter 163 ans de la grande aventure du son.
C'est à manivelle.
Sur le boulevard Rochechouart, au cœur de Pigalle, parmi les boutiques d'instruments de musique et de souvenirs, se trouve le Phonomuséum. Plus de 250 machines du 19e siècle à nos jours y sont exposées. Elles sont toutes en état de marche, du phonographe d'Edison avec ses écouteurs en forme de stéthoscope jusqu'au MP3, en passant par le jukebox, il y en a pour tous les goûts et dans tous les styles, en forme de fleurs, de violons, de voitures ou même de maisons de poupées. Depuis 2014, Jalal Haro, le fondateur passionné de ce musée, le fait découvrir à ses visiteurs. Il nous guide dans ce dédale et nous explique à quoi servent les pavillons, ces sortes d'entonnoirs très évasés fixés au phonographe.
C'est ce qu'on a aussi dans nos oreilles pour mieux entendre et pour mieux diffuser le son. Ce qui est devenu plus tard le haut-parleur. La première période, on s'est inspiré des instruments à musique. Du coup, on a fait des formes de trompettes, de tubas, etc. Et après, comme on était en plein art nouveau, on est passé aux formes fleurs, qui permet d'avoir des couleurs différentes et esthétiques différentes, parce que surtout au début, le grand public a adoré, mais le grand public avait pas les moyens d'en acheter.
Le phonographe était d'autant plus coûteux qu'il permettait aux patrons des guinguettes et des thés dansants de faire des économies. Et très vite, la concurrence fait rage.
C'était pour danser et du coup, on n'avait pas besoin de l'orchestre. On l'a fait fonctionner quand on veut. On sait combien on a payé. L'orchestre, quand il voyait qu'il y avait beaucoup de monde, il voulait être payé plus. Il disait à la personne, oui, mais c'est normal, il y a beaucoup de monde. On est obligé de jouer plus fort. Et c'est plus fatigant. Et là, cette machine, ça permet d'avoir maximum de volume sonore dans l'espace. Comme il y a deux pavillons, on met les deux têtes de lecture sur le même départ. Et du coup, ça va lire d'abord ici et après ici. Et là, on est en 1910.
On écoute et on apprend plein de choses au musée du phonographe. Notamment qu'avant les disques et les célèbres vinyles, les sons étaient enregistrés sur des cylindres de bakélite noire qui produisaient un son très différent. Une histoire passionnante qui permet, selon Jalal Haro, de faire un bond dans le passé.
Comme le titre de ce disque-là, c'est « Nos souvenirs ». Ça devient des souvenirs et c'est ça ce qui fixe aussi nos souvenirs. C'est ce côté magique qu'on veut conserver. Et même ce côté magique, on l'a même encore aujourd'hui, grâce à ces appareils-là. Parce que c'est directionnel, c'est mono, c'est pas stéréo, et on a l'impression que cette interprétation, elle est pour vous. On commence par ces notes d'habitude.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Même la vitesse, souvent en radio, on accélère un peu pour donner plus de dynamique.
Série spéciale Coronavirus sur